Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de Nu Info. Au menu, le secrétaire général de l'ONU décide de créer un comité d'enquête chargé d'examiner des incidents à Idlib en Syrie. La mission de l'ONU au Mali appuie les chefs traditionnels et religieux de Gao, lancement de la semaine mondiale de l'allaitement maternel et en dossier, nous marquerons le premier anniversaire de l'épidémie d'Ebola qui sévit en RDC avec le docteur Ibrahima Sosefal de l'OMS. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a décidé jeudi de créer un comité d'enquête chargé d'examiner une série d'incidents survenus au nord-ouest de la Syrie depuis la signature du mémorandum sur la stabilisation de la situation dans la zone de désescalade d'Idlib par la Russie et la Turquie le 17 septembre 2018. Jérôme Bernard nous en dit plus.
L'enquête portera sur la destruction ou les dégâts causés aux installations figurant sur la liste de désescalade et aux installations soutenues par l'ONU dans la région d'Idlib. Le porte-parole du secrétaire général a précisé que le comité d'enquête examinera les faits concernant ces incidents et fera rapport au secrétaire général à la fin de ses travaux. Antonio Guterres a exhorté toutes les parties concernées à coopérer avec ce comité d'enquête une fois celui-ci mis en place. Mardi, le chef des affaires humanitaires de l'ONU, Mark Lowcock, a dénoncé devant les membres du Conseil de sécurité l'inaction de ces derniers face au carnage en cours à Idlib. Il a pointé du doigt les bombardements du gouvernement syrien soutenus par la Russie. Mark Lowcock a réfuté les informations du gouvernement syrien selon lesquelles des groupes terroristes avaient pris le contrôle des hôpitaux d'Idlib et qu'il n'y avait plus de réseau d'ambulances dans la région. La branche humanitaire des Nations Unies a demandé des explications aux parties au conflit au sujet de 6 attaques dans le nord-ouest de la Syrie en 2019 sur des sites censés être protégés par le système de désescalade. Mark Lowcock a rappelé mardi que la Turquie avait envoyé une réponse officielle mais que la Russie n'avait rien fait.
Au Mali, plus de 300 personnes ont participé les 24 et 25 juillet dernier à Gao à un forum intercommunautaire pour renforcer la sécurité et la cohésion sociale dans le pays. Un forum organisé à l'initiative de l'Association des chefs traditionnels et religieux de cette région. Le représentant spécial de l'ONU au Mali, Mahamat Saleh Anadif, a participé à ce forum. Il explique pourquoi la MINUSMA appuie les chefs traditionnels et religieux de Gao qui s'engagent à renforcer la paix et la sécurité au Mali.
Les autorités traditionnelles, les personnes ressources, les religieux sont une masse critique qui a un rôle extrêmement important. Et pour nous, financer, appuyer une activité de la sorte, d'abord est une satisfaction pour moi personnellement. Et deuxièmement, j'estime que les mobiliser peut contribuer réellement à la recherche de la cohésion sociale dont on parle, mais aussi apporter leur contribution pour qu'on puisse réellement savoir qui est qui. Et pour moi, il y a deux camps. Il y a le camp de la paix et le camp des ennemis de la paix. Et comment faire pour attirer le maximum de citoyens maliens pour renforcer le camp de la paix? Je crois que des initiatives de ce genre peuvent y contribuer.
La semaine mondiale de l'allaitement maternel est organisée chaque année du 1er au 7 août pour promouvoir cette pratique afin que les nourrissons du monde entier soient en meilleure santé. Cette année, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et leurs partenaires mettent l'accent sur la mise en place de politiques en faveur de l'allaitement maternel, telles que les congés parentaux payés ou encore les pauses d'allaitement au travail. On écoute le message de France Bégin, conseillère principale pour l'alimentation du jeune enfant à l'UNICEF.
On a actuellement fait des progrès au niveau de l'allaitement maternel, mais on a seulement encore 4 bébés sur 10 qui sont allaités exclusivement au sein. Et afin d'augmenter les taux, c'est important de fournir les parents avec les outils nécessaires pour permettre l'allaitement. Il faut avoir les politiques en place en termes de congés de maternité, ce qui soit suffisant, congés parentaux. Assurer aussi un contrôle inapproprié du marketing des formules de lait. On a beaucoup actuellement de pays qui reçoivent beaucoup de pression pour finalement se tourner vers les formules de lait. Alors nous, on veut également qu'il y ait un meilleur contrôle dans les pays à ce propos-là pour appuyer l'allaitement. Également, qu'on renforce les capacités dans les services de santé pour aider la maman à mettre les enfants au sein dans la première heure et de fournir l'appui adéquat dans les semaines qui suivent. Et de façon plus globale, qu'on perçoive l'allaitement maternel comme la norme et que tous les niveaux de la société ont un rôle à jouer, qu'on parle des décideurs politiques, qu'on parle des employeurs, des familles, des communautés. On a tous un rôle à jouer pour permettre l'allaitement et rendre l'allaitement beaucoup plus facile pour les mamans.
Un an après la déclaration de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, le virus reste implacable et dévastateur, selon des hauts responsables onusiens. Un troisième cas vient d'être confirmé à Goma, ville de quelque 2 millions d'habitants. L'ONU reste mobilisée et appelle à la solidarité. Pour mieux comprendre la situation, on écoute le sous-directeur général de l'OMS pour les interventions d'urgence, le docteur Ibrahima Sochefal, au micro d'Alpha.
Non, c'est une étape importante. Donc aujourd'hui, l'épidémie a compté 2671 cas, parmi lesquels il y a eu 1790 décès.
Quelle est la particularité de cette nouvelle crise d'Ebola dans l'Ituri et au Nord Kivu par rapport aux autres épidémies d'Ebola en RDC?
Cette région n'était pas du tout préparée à faire face à une épidémie d'Ebola. Le système de santé est extrêmement faible. À titre d'exemple, dans une ville comme Béni, vous avez plus de 300 formations sanitaires qui font la médecine traditionnelle et la médecine moderne, avec du personnel qui n'est pas formé, qui n'est pas qualifié. Ils ne sont pas en mesure donc, de détecter, de répondre dans une épidémie du genre Ebola. Ça, c'est un premier problème. L'autre aspect que c'est la situation sécuritaire. Vous avez des dizaines de groupes armés dans cette zone, que ce soit les EDF ou les Maïmaï, et la sécurité pose problème pour l'accès. Donc, dans ces zones. Ensuite, en termes de compréhension de la population, je vous disais que c'est une région donc, qui, à cause du conflit, à cause de la négligence des autorités, ne faisait plus confiance au gouvernement ni aux structures de l'État. Donc, pour commencer ce travail, accepté dans ces communautés, ça a été extrêmement difficile. Et le dernier point, c'est surtout une population extrêmement mobile, de telle sorte que des contacts à haut risque ont pu se déplacer d'une zone de santé à une autre. Pratiquement les quarts des cas, quand ils sont malades, ils commencent par aller chercher des soins dans une aire de santé différente de l'aire de santé. Au-delà de ça, le business est très développé dans cette zone et la population est très mobile.
Plus d'un an après le début de l'épidémie, quelles sont les priorités de l'OMS? Est-ce que les priorités ont changé par rapport à la réponse? Et quels sont les défis auxquels font face les équipes de riposte sur le terrain?
Les priorités pour l'OMS en appui donc, au pays, c'est d'avoir les capacités donc, au niveau le plus décentralisé possible. Je donne l'exemple donc, de Butembo et Beni, où nous avons décentralisé les équipes dans les aires de santé. Donc, dans ce travail, il n'y a pas que l'OMS, il y a deux partenaires qui s'occupent de prévention des infections, de l'engagement communautaire, etc. Nous avons besoin d'avoir d'équipes solides au niveau le plus décentralisé possible, dans toutes les zones infectées, mais aussi dans les zones à risque, parce qu'il ne faut pas attendre qu'un cas survienne dans une zone pour commencer à mettre en place des activités de sensibilisation et de lutte contre Ebola. Donc, en plus de cela, le problème de la sécurité aujourd'hui est élargi. Au niveau des Nations Unies, par exemple, ce que nous avons appelé le SCALE, pour que les aspects d'engagement politique, les aspects de sécurité et les aspects même d'engagement communautaire en dehors d'Ebola soient coordonnés, donc sous le leadership de ceux qui s'occupent de ces volets, alors que l'OMS continue à diriger le volet santé. Nous avons besoin que tous ces aspects soient mis en œuvre, soient correctement financés, et que les populations ne voient pas juste des équipes qui s'occupent d'Ebola et qui vont partir quand Ebola sera fini. Je pense qu'il y a beaucoup d'investissements à faire dans le système de santé, en termes de soins de santé primaire, mais aussi sur les autres aspects sociaux et de développement.
Dernière question, on voit que les équipes sur le terrain se sont parfois heurtées aux réticences et aux résistances des habitants par rapport au déni de la maladie, refus de la vaccination. Mais aujourd'hui, si vous devez lancer un appel aux populations de Butembo, de Katwa ou de Beni, quels seraient ces messages?
Je pense qu'il est important qu'on travaille avec les structures communautaires existantes et dire à la population qu'aucune épidémie ne peut être vaincue sans l'appropriation par la population. La transmission, c'est au niveau des maisons, au niveau des communautés. Il est important que ces populations donc, s'engagent pour protéger leurs familles, leurs enfants, leurs parents. Et ce travail donc, est facilité par les équipes que nous avons déployées. Il y a eu beaucoup de manipulations politiques au début, mais je pense qu'aujourd'hui, avec la place qu'on a vue au niveau de ces familles, avec le nombre de cas qu'on a vus, cette population est prête à s'engager et nous continuons à prendre la main à la population pour vaincre cette épidémie le plus tôt possible.
Voilà la fin de ce journal de Nu Info à retrouver sur notre page internet et nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.